savoir ce qu'il y a à faire, savoir combien ça coûte de faire ces travaux-là. Et ensuite, il en découle que ça permet d'obtenir les aides. Sélectionner son bureau d'études en fonction de ses compétences, c'est vraiment important.
Bienvenue dans Aubercueil, le podcast qui te fait découvrir des solutions concrètes et éthiques pour améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et à travers chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme toi, je me pose de nombreuses questions sur la rénovation et la construction de mon futur chez moi. Alors ensemble, partons à la recherche de solutions adaptées à chacun d'entre nous et cela commence dès maintenant. Eh bien, c'est avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui sur le podcast Gaël Defer. Bonjour Gaël.
Bonjour Caroline.
Tu es un véritable expert en économie et efficacité énergétique des bâtiments. Gaël, tu es le fondateur de Maîtrise Énergie, une entreprise engagée dans la transition écologique. Chez Maîtrise Énergie, votre mission, c'est d'accompagner les entreprises, les collectivités et les particuliers vers un avenir plus durable. Vous vous spécialisez dans la réalisation d'études approfondies de projets permettant ainsi de définir les solutions les plus adaptées pour économiser de l'énergie. Le sujet d'aujourd'hui, ce sont les audits énergétiques. On va parler de tout ça ensemble. Est-ce que j'ai tout bon jusqu'ici, Gaël ?
C'est tout bon, Caroline.
C'est tout bon. J'ai validé. Merci, Jean-Pierre. Eh bien, écoute, je te propose qu'on commence cet épisode par notre fameux petit jeu de brise-glace. Tu m'as préparé deux affirmations. Une vraie, une fausse, à moi de déterminer la bonne.
Très bien. Ben écoute, j'ai une petite anecdote. J'ai un client un jour qui me contacte pour avoir des renseignements pour un projet de rénovation de son habitation et qui m'informe qu'il a fait passer une société de rénovation globale, RGE, reconnue Grenelle de l'environnement, et qui vont lui faire un audit énergétique gratuit. Et de ce fait, nous n'avons pas besoin de lui en faire un.
Okay.
Est-ce que on a besoin ou pas de lui en faire un ?
Est-ce que tu veux me donner les deux tout de suite ? Et comme ça, moi,
si tu veux.
Pas de
Très bien. Et ensuite, mettre des panneaux solaires pour l'autoconsommation nous permet, en cas de coupure du réseau électrique, de continuer à alimenter sa maison.
Alors, je vais dire que la première, du coup, on est quand même obligé de lui en faire un. Comme quoi, peut-être qu'il y a une préqualification d'audit énergétique, je ne sais pas exactement, mais on est quand même obligé légalement d'en faire un supplémentaire, peut-être une question de label ou chose comme ça. Et la deuxième, c'est vrai. Dis-moi.
Je t'avais dit que je te piégerais. Donc la première est vraie, on n'est pas obligé de lui en faire un. Si l'entreprise D'accord. est compétente pour faire un audit énergétique, aujourd'hui, c'est vrai que, du coup, on va en parler par la suite, ces normes évoluent énormément, du coup, c'est un peu bazar. Donc, la transition énergétique, il faut l'actionner et, on en parlera plus tard. En tout cas, l'entreprise de rénovation globale RGE est apte à faire un audit énergétique.
D'accord.
Cependant, nous, notre conseil, c'est quand même, de faire venir un tiers de confiance dans son projet de rénovation est quand même intéressant, puisque nous, on est rémunéré pour le faire et on ne sera pas jugé parti, contrairement à la société de rénovation globale, qui sera, est-ce que ces préconisations seront vraiment des préconisations tournées vers le bon sens ou est-ce que ça sera plutôt vers le sens de l'entreprise, tu vois ce que je veux dire. C'est d'ailleurs le gros problème que l'on rencontre aujourd'hui. Second conseil, sur la continuité, quand nous, on fait un audit énergétique pour une maison individuelle, en général, on met entre 8 et 12 heures à faire un audit énergétique complet. Je parle de la visite technique, une véritable visite technique jusqu'à la remise du rapport et l'évolution du rapport en fonction des besoins réels du client ensuite. Donc, ce ne peut pas être un travail qui est gratuit. J'entends par là qu'à un moment donné, 12 heures de travail, normalement d'un ingénieur dans une entreprise, ils ne sont pas forcément ingénieurs, mais ça vaut de l'argent. Donc, ça veut dire que l'entreprise va se rattraper quelque part, quoi qu'il arrive. Il n'existe pas de véritable gratuit. La seconde, donc, mettre des panneaux solaires pour l'autoconsommation nous permet, en cas de coupure du réseau électrique, de continuer à alimenter sa maison. C'est faux. J'entends par là que beaucoup de personnes me disent que lorsque on fait de l'autoconsommation, et l'autoconsommation, c'est un terme un peu faux. On ne peut faire de l'autoconsommation véritable que si on a du stockage.
Ok.
Pourquoi ? Parce que les onduleurs, en fait, qui gèrent la transformation de l'énergie soient alimentées également. Et en fait, en cas de coupure du réseau, du coup, ben, vous êtes coupé de votre installation.
Ok, donc il faut effectivement peut-être ce système de batterie qu'on peut avoir avec les panneaux photovoltaïques. Et là, on devient autonome.
En fait, oui.
Mais si on n'a pas ça...
Quelle est la raison? Nous, on s'adapte toujours dans nos préconisations en fonction de la raison pour laquelle vous êtes motivé à mettre du panneau solaire. Est-ce que c'est pour une autonomie? Ou est-ce que c'est pour faire de l'écologie? Ou alors, bon, il y a tout un tas d'autres critères, mais... Voilà. Donc on va essayer de s'adapter parce que pour l'écologie, du coup, lorsque l'on met du stockage, pour l'instant, il n'y a pas forcément de retour sur investissement sur le point de vue écologique.
Ok, 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 super clair. Bah merci pour cette introduction et bien joué. Je pense que justement, c'est un sujet que sur lequel j'ai besoin d'être plus éclairée. Je ne suis pas la seule parmi mes auditeurs aussi. Je te propose de rentrer direct dans le bain. C'est quoi un audit énergétique? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Moi, j'ai vu plusieurs noms passer sur les audits énergétiques. Oui. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ça, s'il te plaît?
Oui. Alors, l'audit énergétique, déjà, il y a différents thèmes. Donc, typologie de bâtiments. Il y a soit des bâtiments dits tertiaires, donc industriels, des hôtels, etc. Il y a du résidentiel. Alors, dans le résidentiel, il y a du collectif. En monopropriété, par exemple un bailleur social ou de la copropriété si jamais vous êtes locataire ou propriétaire d'un appartement dans une copropriété ou un logement individuel. Aujourd'hui, il y a plusieurs normes qui consistent à réduire progressivement le nombre de passoires énergétiques, que ce soit pour la location ou pour la vente, et là on rentre encore dans d'autres critères. Je pense que j'enverrai ensuite un document pour vraiment redétailler tous ces points-là. Mais donc, il y a l'audit réglementaire qui est pour les bâtiments qui sont en vente, donc pour les passoires énergétiques, et les audits incitatifs, dans le cadre où si tu es propriétaire d'un bâtiment et que tu veux faire des améliorations énergétiques qui sont financées.
Ok. Voilà.
L'audit énergétique, il sert à vraiment faire une analyse exhaustive de ton bâtiment, que ça soit sur les parois, donc pour connaître parfaitement la constitution. Donc, on va plus loin qu'un DPE. Ça sera sûrement une question suivante, mais ça va plus loin qu'un DPE. On va vraiment faire de l'analyse avec une caméra endoscopique, faire on va percer parfois les murs pour vraiment découvrir comment le mur est composé. On va détailler l'ensemble des menuiseries, de vos toitures, de vos sols, etc. Et ensuite, on va détailler de manière exhaustive aussi la partie génération de l'énergie pour l'eau chaude sanitaire, le chauffage, la climatisation. L'audit énergétique, il va ensuite faire des préconisations d'amélioration énergétique en fonction de cet état initial projeté pour atteindre une performance. Voilà. Et on va proposer aussi, du coup, que coûtent ces travaux d'amélioration énergétique, quelles sont les aides disponibles et quel est le retour sur investissement. En ce moment, on vient d'apprendre que la loi, en fait, évoluait. Et que l'audit réglementaire et l'audit incitatif allaient être en fait fusionnés à partir de janvier 2024. Il faut savoir que c'est une loi qu'ils ont mis en place en mai de cette année, 2023, et qu'elle est déjà changée. Donc on s'adapte au fur et à mesure de l'évolution de cette loi. Donc on a été un peu perturbé hier par une présentation d'un créateur de logiciels, parce que on vient de nous apprendre qu'on ne devait plus du coup parler des aides financières dans l'audit incitatif. Et on vient de nous apprendre que finalement, il n'y a eu plus qu'à avoir un seul scénario de travaux avec un scénario. Ensuite, le deuxième scénario, en fait, c'est le même scénario, mais découpé en plusieurs étapes. Du coup, ça sort un peu de notre vue, surtout chez Maîtrise Énergie, de notre travail. C'est que nous, notre travail, c'est vraiment de faire plusieurs préconisations de travaux pour que le client puisse choisir réellement ce qu'il a envie de faire. Et pour qu'il choisisse ce qu'il a envie de faire, il faut qu'il sache quel sera son retour sur investissement. Parce que on ne fait pas tous pour les mêmes valeurs, mais souvent la valeur économique,
il y a souvent le biais économique qui est important.
Ouais. Quand même.
Ouais. Ok, ok. Donc si je résume bien, même si la loi est en train effectivement de changer, on enregistre en octobre l'épisode, donc elle est déjà en train d'évoluer,
c'est ce que tu
nous faisais part. On est d'accord qu'il y a donc l'audit réglementaire, qui va être associé normalement avec l'audit incitatif.
Oui, en fait, qui aura la même trame.
Ok.
Voilà.
Et donc, l'audit type énergétique, qui est différent du DPE, on est d'accord?
Oui.
qui est incitatif et énergétique, c'est là où j'ai besoin d'un, peut-être d'un éclaircissement.
En fait, il y a deux types d'audits.
Est-ce que ça s'associe ou
dans,
pas?
Dans la villa individuelle, dans le résidentiel, il y a l'audit incitatif et l'audit réglementaire.
Okay.
L'audit réglementaire, il est en cas de vente d'un bâtiment, d'une passoire énergétique. Alors du coup, pour la vente, depuis le 1er avril 2023, pour les logements classés F et G, tu ne peux plus vendre ce type de bâtiment si tu n'as pas fait un audit énergétique réglementaire. Pour 1er janvier 2025, pour les logements classés E. Et ensuite, pour le 1er janvier 2034, pour les logements classés D. Donc là, pour vendre, tu dois faire un audit réglementaire.
Okay.
Si tu veux faire des améliorations énergétiques, tu dois faire un audit incitatif. Aujourd'hui, ces deux audits sont distingués à l'heure où je te parle, parce que l'évolution ne va pas vers le bon sens, selon moi. Mais aujourd'hui, il est distingué vers le fait que l'audit réglementaire est plus simple que l'audit incitatif. Parce que l'audit incitatif, on va aller faire plus de préconisations de travaux et on va vraiment aller...
D'où les scénarios.
Voilà. Et on va aller vraiment analyser les aides financières qui sont propres à la personne qui est propriétaire du bâtiment à l'instant T. Parce que l'audit réglementaire, il est là pour la vente d'un bâtiment. Donc, les aides financières qu'on va instruire à l'intérieur, elles sont pas adaptées à la personne qui va acquérir le bien. Mmh. Tu vois?
Tout à
c'est
fait.
Plus clair, là.
non, mais c'est bien compris. Merci. Et du coup, quelle est la différence avec un DPE, un diagnostic de performance énergétique? Est-ce que ça rentre dans l'audit ou est-ce que c'est un document à part? C'est quoi la distinction?
Non, en fait, pour... Le DPE, c'est vraiment un document à part entière. C'est un diagnostic de performance énergétique. C'est un document qu'on dit plus simple qu'un audit énergétique réglementaire ou incitatif. On va moins dans le détail. Alors, nous, en tant que bureau d'études, on a pris la décision de ne pas faire de DPE alors qu'on est compétent pour le faire. Mais on pense que ce sont deux métiers complètement différents. Le DPE, donc, c'est obligatoire pour la vente d'un bâtiment et pour la location d'un bâtiment. Pour tout type de classe énergétique. L'audit énergétique vient qu'en cas de vente d'un bien en classe énergétique vraiment en passoire. Et l'audit énergétique vient en complément. Aujourd'hui, on peut déléguer la partie audit énergétique à la personne qui fait le DPE si jamais il est compétent pour le faire. C'est une formation, une qualification supplémentaire, mais qu'ils peuvent demander. Pour nous, auditeurs énergétiques, bureau d'études, c'est un peu délicat parce que on trouve qu'une personne qui te fait un DPE, il te dit vous êtes en passoire énergétique. Bon, ben maintenant il faut repayer pour faire l'audit énergétique. Et en plus de ça, ce qui est déstabilisant pour le consommateur et on l'entend énormément aujourd'hui, pour eux c'est la même chose parce qu'ils s'attendaient à ce que le DPE donne les informations sur l'enveloppe et tout ça. Et c'est pas le cas parce que nous, on passe beaucoup plus de temps. Et du coup, l'audit énergétique est aussi plus cher qu'un DPE. Mais parce qu'on va
il est plus poussé.
Plus en dans le détail.
Ok. Et ben justement, c'est ma prochaine question. C'est quoi les informations qui sont fournies dans un audit énergétique? Qu'est-ce qu'on y retrouve dans le détail?
Alors, dans le détail, on va retrouver vraiment la composition des murs, des menuiseries. Donc, par exemple, pour les menuiseries, on doit s'équiper d'un vitromètre. Donc, on va vérifier si tu as déjà un vitrage, un double vitrage. Bon, on va vérifier sa composition réelle, son vide d'air, son épaisseur de verre intérieur-extérieur, etc. On va vérifier l'installation d'une VMC, son fonctionnement, toutes les parois, donc ça est du sol au mur et au plafond, et tous les systèmes qui génèrent de l'énergie. Ta climatisation, ton système de chauffage, voilà, sa puissance, etc. Donc, on détaille vraiment l'ensemble du bâtiment.
On est principalement d'accord sur tout ce qui concerne le bâti en tant que tel.
Le bâti, c'est le système de génération d'énergie de consommation.
Ouais. Ok.
Tout ce qui pourrait influencer ta facture d'énergie, par exemple.
D'accord. Et en poussant un peu plus loin, est-ce que les systèmes de chauffage, donc les systèmes de chauffage mis en place, par exemple, ou les systèmes d'aération sont pris en compte?
Oui.
Okay.
Les systèmes de ventilation, en fait, sont sous-estimés parce que c'est eux qui vont gérer, en fait, l'humidité relative dans ton bâtiment. Et l'humidité a une influence sur ta consommation de chauffage, par exemple. Si tu as beaucoup trop d'humidité, enfin, plus tu as d'humidité dans ton bâtiment, plus tu vas consommer d'énergie, puisque l'air humide nécessite plus d'énergie que de l'air sec.
Ok. Voilà.
Donc, ne serait-ce que pour ce point-là, en fait. Et la consommation d'une VMC, tu peux avoir une VMC double flux qui fonctionne très mal, mais qui est plus consommatrice qu'une VMC classique qui pourrait fonctionner correctement, mais en tout cas, il faut prendre en compte ces éléments-là parce que tout ça, ça a une influence considérable. Et sur un VMC double flux, j'avertis tous les consommateurs aujourd'hui parce qu'il y a énormément aujourd'hui de sociétés peu scrupuleuses qui viennent chez vous en vous disant mettez un ballon solaire et mettez une VMC double flux et vous allez économiser de temps. D'ailleurs, ils utilisent des logiciels qui sont que nous on a testé et que je donnerai pas le nom pour pas décrédibiliser cette entreprise qui fait un logiciel qui est correct mais du coup qui donne pas forcément les bonnes informations, qui est très bien fait je trouve au niveau commercial mais qui est un peu délicat et ça prend pas suffisamment d'éléments en compte. Donc attention aux entreprises qui viennent chez vous en disant mettez des panneaux solaires thermiques pour votre chaude sanitaire. Et mettez aussi une VMC double flux pour grossir l'enveloppe travaux, pour obtenir plus d'aide sur l'ensemble. Mmh. Mais en réalité, les VMC double flux, c'est très complexe pour les faire fonctionner correctement. Il faut qu'on ait un bâtiment complètement contrôlé au niveau des apports d'air, en fait. Voilà, donc il y a très peu de VMC double flux aujourd'hui qui fonctionnent correctement.
Okay.
Voilà pour le côté ventilation.
Eh bien écoute, je pense que peut-être pour que ce soit plus clair pour nos éditeurs, est-ce que tu peux te mettre dans l'impôt d'un projet et puis en fait comment ça se passe étape par étape, voilà j'ai mon bien, je dois faire un audit énergétique, j'aimerais améliorer ses capacités énergétiques. Comment ça se passe étape par étape? Alors déjà, bon, premier contact, je signe un audit énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les informations qui me sont demandées? Qu'est-ce que je dois prévoir? Et puis après, la suite pour savoir un peu comment sont les différents scénarios de travaux et après pour avoir les différentes étapes.
Ok. En fait, premièrement, lorsqu'on a un besoin une idée de projet d'amélioration énergétique ou de rénovation de son bâtiment, en général, on sait ce que l'on veut. On sait si c'est de la rénovation énergétique, on sait si on veut faire des gros travaux, etc. Donc, en fonction du volume, de l'ampleur des travaux et de vos compétences, en général, il faut se faire accompagner soit par un AMO ou un maître d'œuvre ou un architecte.
Un AMO, c'est ?
Un assistant à maîtrise d'ouvrage.
Okay,
attention, les responsabilités de l'AMO, du maître d'œuvre et de l'architecte sont différentes. Le maître d'œuvre et l'architecte, c'est plutôt similaire. Il y a une garantie décennale. L'AMO, aujourd'hui, on trouve un peu de tout sur le marché. On trouve des courtiers en travaux qui n'ont aucune responsabilité légale. Pourtant, ils font un travail de maître d'œuvre. Enfin, voilà. Donc, tout ça, faut bien faire attention. Déjà, il faut en général se tourner vers une entreprise qui va être votre tiers de confiance, plutôt que de se tourner vers une entreprise de rénovation globale. Ça, c'est mon conseil, c'est personnel. Il va normalement vous orienter vers des travaux sans être pris parti. Donc, c'est sélectionner la personne, son interlocuteur, pour définir son projet, si jamais on en a besoin. Ensuite, la vraie étape essentielle, c'est de faire un véritable audit énergétique par une entreprise compétente. Et en général, ces entreprises-là sont labellisées RGE. D'ailleurs, on en aura besoin par la suite, qu'elles soient labellisées RGE, si on veut obtenir un certain type d'aide. La rénovation globale de MaPrimeRénov ou des certificats d'économie d'énergie, donc les C2E. Il y a tout un tas d'autres aides, mais on y reviendra. Et une fois qu'on a fait cet audit énergétique, donc on verra comment la norme évolue, mais l'idée c'est quand même de, même si l'audit incitatif plus tard sera vraiment plus restrictif, il faut essayer de voir avec un bureau d'études qui nous fasse plusieurs scénarios de travaux. Voilà, qu'on sort de ce cadre trop réglementaire.
C'est important.
Parce que c'est vraiment important d'arriver à comparer si je fais tous ces travaux-là, par exemple c'est le scénario 1, est-ce que le scénario 2 ne sera pas, avec une légère modification, ne sera pas plus rentable que le scénario 1. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir plusieurs scénarios pour pouvoir choisir. Et ensuite, il y a des réglementations aussi sur le type d'aide qu'on va aller sélectionner. Si on fait de la rénovation globale MaPrimeRénov et qu'on est en passoire énergétique, donc classe F ou G à l'heure actuelle, à partir de 2024, on sera obligé d'être accompagné par un accompagnateur Rénov. Donc l'accompagnateur Rénov, c'est un titre que l'on nous donne après avoir démontré qu'on était compétent pour être accompagnateur Rénov. Donc c'est un titre vraiment de, pour être AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, pour MaPrimeRénov.
Ok.
Donc là, on sera obligé de passer par un AMO. Je pense que c'est très bien d'ailleurs, hein, parce qu'au moins ça nous permet, les AMO en général sont compétents pour dire si une entreprise réalise bien ou pas les travaux, et là pour vous accompagner en disant les travaux devraient durer tant de temps et s'échelonnent de telle manière. Si vous faites de l'isolation par l'intérieur, il va vous dire pensez à passer vos gaines électriques, vos réseaux de plomberie, si jamais il y en a besoin pour la suite. Quoi. Il va vous donner la chronologie des travaux. Donc, première étape, trouver son interlocuteur qui va gérer vos travaux. Deuxième étape, faire l'audit énergétique. Sélectionner son scénario. Si vous avez un interlocuteur, un assistant à maîtrise d'ouvrage ou un maître d'œuvre, il va vous aider à sélectionner des entreprises qualifiées et compétentes, si possible locales, pour... on imagine...
Bon, on y pense, c'est important.
C'est important pour l'économie circulaire et aussi... pour le bilan carbone que représentent les travaux, moi je vois beaucoup, beaucoup d'entreprises faire des heures de route pour aller faire un chantier à 2 heures de route de leur entreprise et je trouve que c'est, ça n'a pas de sens en fait. Il y a deux erreurs dans cette équation, c'est l'entreprise qui a pris le marché, déjà ça veut dire qu'elle n'a pas suffisamment de travail à côté de chez elle et le particulier qui a sélectionné cette entreprise qui ne s'est pas posé la question de combien de temps ils allaient mettre à venir chez eux. Donc ça, c'est très important pour une entreprise locale. Parce qu'en cas de pépin, justement, on pourra aussi les faire revenir beaucoup plus facilement. Et donc, dernière étape, une fois qu'on a sélectionné les entreprises, on fait réaliser les travaux, on réceptionne les travaux, soit votre tiers de confiance, soit vous-même. Et au préalable, on aura monté son dossier d'aide financière quand même. Donc auprès de MaPrimeRénov, les C2E, tout ça. Mais en général, l'audit énergétique, tel qu'il est fait aujourd'hui, vous redétaille tous ces éléments-là.
Okay.
Voilà. Toute la chronologie, en fait, pour suivre un travaux, c'est déjà détaillé dans l'audit énergétique. Et on vous dit aussi comment monter les dossiers d'aide si jamais vous voulez les monter vous-même.
D'accord. Typiquement, un des grands avantages de l'audit énergétique, c'est vraiment ce côté d'aller chercher les aides à la rénovation énergétique proposée par l'État ou par... dans toutes les différentes aides possibles et imaginables.
Oui, alors c'est pas le grand avantage. Moi, je dirais que le grand avantage avant d'aller chercher des aides, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans son bâtiment.
Tout à fait, oui.
Parce que il y a parfois, ça m'est arrivé, de faire un audit énergétique à 1200 euros et de dire au client, mais là, faites pas grand-chose parce que le retour sur investissement va être beaucoup trop long parce que ça nous arrive parfois d'auditer des bâtiments qui sont en classe énergétique correcte. Mais ils n'avaient pas fait de DPE avant, en fait, parce que eux, ils sont résidents depuis un certain nombre d'années, ils veulent juste améliorer leur confort ou quoi que ce soit. Mais parfois, on leur dit combien ça coûte de faire des travaux, mais le retour sur investissement est énorme, en fait, parfois. Voilà. Donc, ou alors, des fois, en très peu de temps, avec juste la mise en place d'une ventilation et quelques traitements de points singuliers, de ponts thermiques, de choses comme ça, on peut faire de très belles choses avec très peu d'investissement. Donc, et là, il n'y a pas d'aide. Par exemple, tu mets une VMC chez toi, voilà, l'aide, elle est ridicule, mais le temps de monter le dossier, voilà, il vaut mieux demander une remise à l'entreprise.
Ça passe plus de temps.
et d'ailleurs, elle sera contente parce qu'elle aussi, du coup, elle est engagée lorsqu'il y a des dossiers administratifs à monter. Et par exemple, pour l'isolation en comble, qui ne coûte pas très cher, le retour sur investissement est excellent. Voilà, donc parfois, avec très peu de moyens, on peut faire de très bons retours sur investissement. Donc d'abord, l'audit énergétique, il sert à ça. Il sert ensuite à ne pas te faire arnaquer quand tu vas aller consulter toi-même les entreprises. Il va te dire, si tu veux installer une pompe à chaleur en remplacement de ta chaudière fuel, ça coûte tant en général. Alors, nous, on reste quand même, on n'est pas l'entreprise qui fait les travaux.
Sur une fourchette de prix. Oui.
Donc on donne une valeur, mais après c'est aux entreprises de faire leur prix. Mais voilà, on donne en tout cas la bonne fourchette puisqu'on a l'habitude de consulter des entreprises. Donc voilà, d'abord c'est ça, c'est savoir ce qu'il y a à faire, savoir combien ça coûte de faire ces travaux-là. Et ensuite, il en découle que ça permet d'obtenir les aides.
Ok, Ça fait partie, mais c'est pas... Effectivement, c'est d'abord le projet en tant que tel.
Ouais.
L'information et devenir un peu plus sachant sur son projet. C'est vraiment ce côté connaissance aussi qui est apporté. Et puis ensuite, effectivement,
voilà. C'est pour ça que
aller chercher les aides.
Sélectionner son bureau d'études en fonction de ses compétences, c'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, on voit que la profession est en train de se tourner vers ça, justement. Il faut faire des audits énergétiques parce que l'État nous le demande pour obtenir les aides financières. Mais à la base, ce n'est pas du tout le but de la manœuvre.
Ok. Donc ça, on est d'accord. C'est vraiment l'audit énergétique dans le but d'améliorer son logement. Et dans le but, si je prends dans le but pour le coup de l'achat-revente d'un logement, quels sont un peu les avantages pour l'acquéreur ou pour l'acheteur, enfin pour le revendeur, pardon, de faire cet audit énergétique?
Alors, pour le revendeur, les avantages ne sont pas les mêmes. Pour le revendeur, en fait, c'est que parfois, justement, en faisant cet audit énergétique, il va s'apercevoir qu'avec très peu de moyens, il va pouvoir améliorer sa note énergétique. Donc, il va peut-être engager des travaux directement avant de vendre en se disant « je vais réévaluer le montant de mon bien à vendre ». Parfois, avec 2000 euros, tu peux revendre ta maison 10 000 euros plus cher, par exemple. La négociation va être moins douloureuse parce que ta classe énergétique a évolué. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un élément très important qui est pris en compte lors de transactions. Pour l'acquéreur, ça lui permet en fait de savoir d'emblée qu'est-ce que ça va lui coûter d'améliorer tout de suite son bien. En général, l'acquéreur, il va se projeter dans les travaux beaucoup plus facilement dès lors qu'il a acheté le bien, plutôt que dans le temps. Une fois qu'il a emménagé, qu'il a mis ses cartons, qu'il a fait ses peintures, il va se dire, bon, les travaux d'amélioration énergétique, on verra plus tard. Donc, c'est de suite savoir et comprendre comment le bâtiment est réellement fait et qu'est-ce qui lui est proposé pour faire des actions tout de suite.
Ok. C'est combien de temps la durée de validité d'un audit énergétique? Est-ce qu'il y a une date de péremption?
C'est 5 ans.
5 ans? Ok. À partir du moment où l'acte a été fait ou est-ce que...
C'est la date de l'audit.
Il y a toujours des petits... La date de l'audit. Ok. Ok. C'est intéressant. Est-ce que... tu parlais tout à l'heure pour l'élaboration justement de, enfin dans les étapes pour faire un audit énergétique. Est-ce que c'est obligatoire d'inclure à chaque fois un maître d'œuvre ou une personne qui va gérer les travaux en amont, ou est-ce qu'on peut passer directement à l'audit énergétique bureau d'études et le faire et zapper un peu cette étape, ou est-ce que tu ne le préconises pas ou tu préconises peu importe?
Je veux dire faire appel à un tiers de confiance avant même de trouver un auditeur énergétique?
Oui.
Ça peut être une étape, en fait. Parce que peut-être que l'AMO ou le maître d'œuvre va te conseiller sur le bureau d'études qui, lui, a déjà à connaissance de ses références, peut-être. Tu vois. Je reste vague sur ça parce que il y a parfois des AMO ou des maîtres d'œuvre qui vont préconiser plutôt le collègue plutôt que l'entreprise complètement compétente. Mm-hmm. Non, tu peux squeezer cette étape-là. Je pense que prendre un maître d'œuvre tout de suite, c'est vraiment si tu souhaites engager, tu es sûr que tu vas engager des travaux quoi qu'il arrive. Voilà. C'est vraiment pour faire des gros travaux, pas que des travaux d'amélioration énergétique. Si jamais tu as un besoin où tu te sens un peu en inconfort chez toi, où tu vois que ta facture d'énergie elle n'arrête pas de grimper et tu as l'intuition que tu peux améliorer ce bâtiment, mon conseil c'est de passer directement avec un auditeur énergétique parce qu'il va te dire si c'est intéressant ou pas d'aller plus loin. C'est là que, si jamais tu vas plus loin, c'est là que tu prendras ensuite la décision de faire appel à un tiers de confiance pour t'accompagner sur la réalisation des travaux.
Ok, oui. Pour justement, peut-être, parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir cette réflexion, mais ça coûte vite cher aussi d'ajouter. Donc si parfois, selon la teneur des travaux, effectivement, peut-être que ça peut être judicieux de passer directement. Et puis, comme tu dis, si les travaux deviennent effectivement peut-être trop larges, là, s'entourer pour pouvoir se faire aider sur la démarche.
Et dans certains cas, du coup, dans MaPrimeRénov' Sérénité, tu es obligé, là, par contre, de faire appel à un AMO ou à un maître d'œuvre, un tiers de confiance, en tout cas. Et à partir, comme je disais tout à l'heure, à partir de 2024, de janvier 2024, en cas de rénovation globale sur un bien en passoire énergétique actuellement, tu seras obligé de faire appel à un accompagnateur rénov'. Alors, il y a un avantage quand même à être accompagné, c'est qu'en général, la rénovation globale nécessite une cohésion d'équipe et relativement bien organiser les travaux. Mmh. Et ma prime rénov prévoit une aide à la prise en charge de cette mission.
Ok. Donc il y a quand même un accompagnement pour peut-être des plus petits budgets.
C'est ça.
Pour pouvoir quand même avoir cet accompagnement supplémentaire.
Oui. Il y a aussi, dans l'audit incitatif, il y a aussi une aide à la réalisation de l'étude. Qui est, pour les ménages les moins, avec le moins de revenus, l'aide monte jusqu'à 500 euros pour la réalisation de l'audit énergétique incitatif.
Ok. Petite question, du coup, pour retrouver toutes ces informations au niveau des aides, pour pouvoir s'inscrire à ces aides ou faire un dossier, est-ce qu'il y a un site en particulier ?
Oui, il y a un site en particulier qui est plutôt assez bien fait maintenant, qui nous donne une bonne idée, c'est le site de MaPrimeRénov.
Tout simplement.
Okay. C'est un site du gouvernement, bien tapé maprimerenov.fr. Je fais comme Carglass, mais Internet maintenant, c'est compliqué de s'y retrouver. Mais donc, bien tombé sur le site de MaPrimeRénov, qui est un site du gouvernement.
Ok. De faire attention que ce soit bien le vrai site et pas une arnaque.
Voilà.
Petite question, quelles sont les qualifications requises pour réaliser un audit énergétique ? Qu'est-ce qu'on demande aux personnes qui font les audits énergétiques ?
Aujourd'hui, pour réaliser un audit énergétique, il faut une qualification RGE, reconnue Grenelle de l'environnement.
Ok.
Alors, il y a les deux types d'audit énergétique, il y a l'audit réglementaire aussi, donc les entreprises de DPE peuvent faire ce type d'audit. Et aussi, du coup, j'en oublie parce que c'est tellement vaste, mais il y a les entreprises de travaux qui peuvent demander une certification pour faire ce type de mission. En réalité, je trouve que c'est pas assez clair et assez borné, parce que pour moi, le label RGE, j'ai un bon passif sur ce type de demande de certification. Ça détermine pas que l'entreprise est véritablement compétente, en fait. J'aime souvent dire, attention, les entreprises RGE, ce sont pas forcément toutes des superbes entreprises. Ça aide à la décision, mais il faut pas que ça soit le seul critère. J'aime à rappeler, ça ne plaît pas à tout le monde, surtout sur les organismes de certification, j'aime à rappeler que pendant ces cinq dernières années, il y a eu énormément d'arnaques à la rénovation énergétique, et les UBC a fait un super reportage d'ailleurs sur la question, même s'il était un peu trop dans le dur, parce qu'elle a oublié de dire qu'il y avait quand même des choses qui se passaient dans le bon sens.
C'est sa patte aussi.
Ouais. Mais beaucoup... Oui, énormément de sociétés qui ont fait des arnaques à la rénovation énergétique étaient labellisées RGE. Donc, ce n'est pas pour moi le critère absolu. Le critère absolu, c'est votre ressenti, les avis peut-être sur Google, sur l'entreprise. Il faut faire son propre avis sur les compétences d'une entreprise et sur le ressenti, sur qu'est-ce que va vous donner comme impression l'interlocuteur que vous allez avoir au téléphone. Quoi.
Ok. Ma question était un peu effectivement dans ce sens-là. On entendait justement beaucoup parler de ces arnaques et c'était d'avoir un peu les critères. Alors, ce que tu nous conseilles principalement, c'est de se faire son propre avis, d'avoir le bouche à oreille peut-être ou ce genre de choses pour avoir le côté authentique et pas juste commercial lié à la labellisation RGE ou autre.
Oui. Oui, en fait, tout le monde le sait. J'espère que les gens sont de moins en moins naïfs, en tout cas sur le secteur. Il est vrai que le secteur de la transition énergétique est très porteur en ce moment, puisqu'on en entend parler plus que de ça. En tout cas, ça représente une grosse partie de la communication aujourd'hui sur les réseaux. Du coup, ça génère énormément d'opportunistes, comme toujours, vu qu'il y a des aides en plus. Il y a des obligations déjà légales, et en plus maintenant il y a des aides. Donc ça crée énormément d'opportunistes. Donc effectivement, comme tu dis, le bouche à oreille est un très bon moteur. Il y a les réseaux, donc les avis sur Internet, même s'ils ne font pas tout, parce qu'on sait que maintenant, parfois, il y a des gens qui mettent des avis sans trop de justification. Mais c'est quand même des bons indicateurs. Et après, son ressenti, il faut se faire confiance, quoi. Voilà, le ressenti humain, l'historique de la personne. Peut-être que moi, j'ai l'habitude de donner un peu mon cursus professionnel à mes futurs clients, parce que je pense qu'ils ont besoin de savoir pourquoi je fais ce métier-là. Que ça soit mes valeurs qui me poussent à faire ce métier-là, ou alors mes compétences.
Mmh. Ouais, qui tu es derrière l'entreprise.
Absolument.
Aussi, quoi. C'est important.
Oui.
J'ai une dernière question. Comment le coût d'un audit énergétique est généralement déterminé? Est-ce que tu peux éclairer un peu là-dessus, savoir combien ça coûte ou une fourchette au moins?
Je suis content que tu me poses la question parce que ça me fait penser à une anecdote que j'ai eue la semaine dernière.
Vas-y.
Si tu veux, je te la donne ou sinon.
Vas-y. J'aime bien les anecdotes.
L'audit énergétique, nous, comment on fait? Parce que chacun fait son prix comme il a envie de le faire. Il n'y a pas une norme pour le faire. Nous, on fait notre prix d'audit énergétique en fonction du temps théorique qu'on va y passer. Et parfois, on gagne plus d'argent que sur un projet ou sur un autre. Parce que la complexité d'un bâtiment, on a du mal à l'estimer au préalable. Aujourd'hui, on a du mal à se déplacer. On n'a pas un commercial qui va se déplacer chez une personne pour faire un audit énergétique, même si on devrait. Mais aujourd'hui, malheureusement, avec toutes ces sociétés opportunistes, qui soit offrent les audits, soit les bradent complètement parce que derrière, ils vont avoir une rémunération sur des travaux, sur un apporteur d'affaires ou des choses comme ça. Nous, c'est pas du tout de notre façon de faire. On est obligé d'essayer de pratiquer des prix qui sont cohérents avec les moyens des clients que l'on va voir. Et aussi, du coup, la concurrence. Notre prix à nous est déterminé en fonction du temps qu'on va y passer, en théorie. Mais parfois, on arrive sur une maison où... au lieu d'avoir une seule typologie de mur sur l'ensemble de sa maison, elle va avoir 4-5 typologies de mur parce qu'il y a eu des travaux qui ont été menés au cours des années, mais de manière différente. Un jour, ils sont allés chez un distributeur de matériaux, ils se sont dit, tiens, il y a une promo sur de la laine de verre. Et sur un autre mur, ils vont se dire, tiens, il y avait une promo sur le polyuréthane, et ça nous est arrivé. Et l'anecdote, c'est qu'un jour, je fais un devis pour un audit énergétique d'un immeuble. Et j'avais déjà pas le temps de le faire, cet audit énergétique. Donc, on avait fait le devis en expliquant au client que s'il trouvait quelqu'un pour le faire tout de suite, c'était mieux. Et cette personne, donc, a fait venir une entreprise. Elle a trouvé une entreprise, RGE, qui venait de plus loin que nous. Donc, qui venait à 1 heure de route, qui venait de Marseille. Nous, on était à côté, on était à 15 minutes de route, qui était au même prix que nous. Et cette entreprise est venue faire l'audit énergétique réglementaire de cet immeuble et a passé 20 minutes. Et en fait, ce client m'a rappelé en me disant « Mais tiens, j'ai trouvé ça curieux. Ils sont restés que 20 minutes. » Moi, j'y serais resté 3 heures au minimum. » J'ai dit « Mais du coup, est-ce qu'ils étaient moins chers ?» Je pensais que c'était équilibré du coup, parce qu'ils avaient quand même des heures de route que moi, j'avais pas à avoir. Donc, ils étaient au même prix que moi. Pour un audit qu'ils ont mis 20 minutes à faire sur un immeuble de 4 logements. Là, je sais pas comment ils font. Et en fait, c'est en ça, c'est ça qui décrédibilise la profession et c'est malheureux parce que du coup, on n'a pas suffisamment... l'audit énergétique, normalement, on fait qu'en parler en ce moment parce que ça doit avoir du sens en fait. On doit réellement, concrètement apporter des solutions aux gens. On n'est pas là juste pour remettre un document qui va permettre la vente d'un bâtiment. Sinon, ça n'a pas de sens, quoi. Voilà. En tout cas, nous, ça ne sert à rien de nous contacter juste pour remettre un document officiel pour vendre un bâtiment parce que ce n'est pas du tout dans nos valeurs.
Oui, le but, c'est quand même à la fin d'avoir un réel impact sur le bâtiment, oui. Sur le confort des gens.
Et sur l'environnement de manière générale.
Et sur l'environnement.
Je pense qu'on est tous plus ou moins au courant qu'il y a une urgence climatique et que c'est véritable et qu'on doit tous y mettre du nôtre, quoi.
Complètement, complètement. Gaëlle, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Une question que j'aurais pas posée, qui aurait pu être pertinente autour des audits énergétiques. Sinon, je te propose de passer à la phase action. Très actionnable.
Non, j'aimerais quand même préciser que, puisque l'État communique énormément en ce moment sur la pompe à chaleur, on a vu notre président dire qu'il allait œuvrer pour mettre en route des centrales françaises pour créer des pompes à chaleur en masse. Je suis pas contre les pompes à chaleur du tout, mais je pense que c'est presque la dernière action à mener chez soi. Hormis si ton système de chauffage est complètement HS et qu'il faut le remplacer. Tu vois, dans la chronologie, on va rééquilibrer, quoi. Mais le générateur, c'est pas l'élément le plus consommateur de chez toi. Tu pourrais avoir une chaudière fuel qui consomme pas du tout si ton enveloppe était complètement étanche et bien équilibrée. Voilà. Donc, attention en ce moment à la surcommunication sur les énergies électriques parce qu'on doit s'émanciper des autres pays.
Des centrales.
Des centrales, etc. Attention à cette surcommunication parce qu'on peut faire du très bon boulot en investissant la même somme qu'on aurait mis dans une pompe à chaleur pour remplacer sa chaudière fuel dans l'enveloppe de son bâtiment. Et je finirai par ça. Si tu investis sur l'enveloppe de ton bâtiment, tu vas créer du confort en même temps de créer des économies. Si tu investis sur ton générateur, donc sur une pompe à chaleur, tu vas que créer éventuellement des économies d'énergie et financières.
Ok, c'est bien noté. Et juste quand même pour précision, quand tu parles de l'enveloppe, on est d'accord que tu parles vraiment des murs de ton bâti,
oui.
Avec l'isolant, avec
oui.
avec
les menuiseries,
la
toiture, le sol, tout quoi.
Ok, très bien. Eh ben écoute, c'est noté et très percutant comme dernière remarque. Je te propose qu'on passe du coup à la phase très actionnable.
C'est ok.
C'est parti. Je profite de cette coupure, tu te demandes peut-être comment soutenir notre travail sur Ubercaille. Déjà, tu peux noter ce podcast. C'est un moyen simple mais crucial pour atteindre un public plus large. Sur Apple Podcasts ou iTunes, on t'invite à laisser une note et un commentaire. Et si c'est sur Spotify, tu peux également nous soutenir en partageant ce podcast en story et en nous taguant sous le nom Ubercaille-Média. On compte sur toi. Et maintenant, retour à notre intervenant. Concrètement, comment ça se passe pour son Ubercaille ? Nos éditeurs, ils ont, comme tu t'en doutes, un projet d'audit énergétique, pardon. Qu'est-ce que tu leur conseilles, hyper actionnable, une première question à se poser, des acteurs à conseiller, un conseil hyper concret à leur donner?
Un conseil hyper concret pour des gens qui ont des travaux d'amélioration énergétique à faire, c'est de prendre le temps, en tout cas, de choisir son bon interlocuteur. Je veux dire le premier interlocuteur qui va souvent être décisif pour la suite du projet, quoi. Et de faire un audit énergétique.
C'est vraiment, si on peut prendre une petite image, les fondations de tout, parce que si on se, c'est pas qu'on se trompe d'interlocuteur, mais qu'on prend peut-être pas bien le temps, ça peut engendrer derrière pas mal de galères ou pas mal de choses.
Et du coup, ça rétrécit, je pense, ma préconisation numéro 1, c'est vraiment de faire un audit énergétique pour faire des travaux d'amélioration énergétique. J'ai vu bien trop de chantiers qui ont mal tourné. J'ai même vu des chantiers d'amis, donc ils se reconnaîtront s'ils écoutent le podcast, qui m'ont appelé pour me poser des questions après le passage d'un commercial chez eux, qui vendait des panneaux solaires, etc., etc. Et je leur ai dit, surtout ne faites pas ça, parce que chez vous, vous mettrez beaucoup trop de temps à l'amortir sans faire d'études, juste par expérience. Et j'ai deux cas comme ça où en fait ils se sont fait complètement avoir. Ils ont quand même signé tellement que les commerciaux sont forts, alors que mes amis ont dans leur relation un expert en efficacité énergétique. Je pensais que c'était assez clair comme terme, comme statut, mais non, visiblement. Et donc ils se sont fait arnaquer. Donc j'ai des véritables cas d'école. Donc il faut faire un audit énergétique par une société qui n'est pas contre-rémunérée par des sociétés de travaux.
C'est un vrai conseil, ça, oui. Je pense. Merci beaucoup. Dans ta vision, dans le meilleur des mondes, c'est quoi pour toi ton Ubercaille idéal ?
Mon Ubercaille idéal, c'est un Ubercaille confortable, parce qu'on parle beaucoup d'économie d'énergie, mais en général, on oublie de parler de confort. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la pompe à chaleur. Si tu es au confort dans ton Ubercaille, tu feras quoi qu'il arrive des économies d'énergie. Donc, d'abord, c'est un logement confortable.
Ok. Donc du coup, si tu avais un mot, un seul, pour définir ton Ubercaille...
Confortable.
Confortable. C'était assez obvious, là. trop bien. Est-ce que tu as des ressources pour s'informer sur le sujet des audits énergétiques ou sur les énergies renouvelables, peu importe, des ressources sur le sujet, podcast, chaîne, livre, personne à suivre?
Ouais, j'ai deux livres que j'aime bien. Et il y en a un premier qui s'appelle « Tout comprendre ou presque sur le climat ».
Ok.
Je pense que c'est un livre qui nous permet de comprendre, en gros, ce qui se passe dans l'environnement véritablement. Et j'ai un second bouquin aussi qui s'appelle « La conception bioclimatique » de Samuel Courget et de Jean-Pierre Oliva, qui donne de bonnes indications sur l'efficience d'un bâtiment, en fait. C'est avec peu de choses, avec un peu de logique, on peut faire de très belles choses. Et en personnalité à conseiller en, sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré un monsieur qui est vraiment, qui, j'aime beaucoup ce qu'il fait en fait sur des vidéos. C'est Claude Lefrançois. Claude Lefrançois, il a un pseudo sur les réseaux sociaux, parce qu'il a pas mal d'abonnés. Et c'est plutôt pas mal sur sa vision de l'écologie, de tout ça. On partage des idées.
À part, est-ce que c'est Papy Claude,
si, c'est Papy Claude.
C'est Papy Claude,
ouais,
c'est ça. Ok, j'ai déjà vu.
Ouais, une bonne personnalité, des choses qui sont plutôt vraies. Ça dépend du point de vue de chacun, hein, toujours, mais voilà, j'aime bien son point de vue, en tout cas.
Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Eh bien, écoute, on touche à la fin. Où est-ce qu'on peut te contacter ou te retrouver si on a envie de suivre tes avancées?
Alors,
ou te contacter?
On est sur Facebook et on a aussi un site internet www.maîtriseénergie.com. Maîtrise énergie, attention, okay. Ça s'écrit avec un seul E qui fait liaison. C'est un mot tout attaché.
C'est un beau jeu de mots.
Oui, oui, c'est un double sens. On a décidé de créer cette entreprise pour maîtriser l'énergie des gens qui veulent faire des travaux et qui sentent qu'ils vont rentrer dans un processus assez énergivore. Et on économise aussi l'énergie des bâtiments, du coup. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis au pluriel.
Trop bien. Merci. En plus, on aura eu la signification. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour ce passage. Merci pour tes explications, Gaëlle. C'était top. Un super moment.
Merci. C'est partagé.
Trop bien. Et puis, bah écoute, j'ai plus qu'à souhaiter à tout le monde une belle journée. Et puis, à bientôt dans vos bercailles.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. C'est l'heure du bilan. Voici les trois choses principales à retenir. Premièrement, il faut bien choisir son expert énergétique. Les audits énergétiques sont cruciaux pour comprendre ton bâtiment. Ne te fie pas uniquement au label RGE, mais privilégie ton ressenti, les avis et le bouche à oreille. Le conseil supplémentaire, c'est de sélectionner peut-être un interlocuteur de confiance non lié à une société de travaux pour obtenir une analyse peut-être plus objective. Ensuite, comprendre les étapes essentielles. Identifie clairement ton projet de rénovation énergétique. Si besoin, fais-toi accompagner par un professionnel adapté, que ce soit un AMO, un maître d'œuvre, un architecte, en fonction du volume de tes travaux. La réalisation d'un audit énergétique par une entreprise labellisée RGE devient obligatoire pour certaines aides. On compare ensuite les scénarios de travaux proposés. Enfin, optimise les avantages des audits. Profite des audits pour connaître les travaux nécessaires, éviter les arnaques, estimer les coûts et comprendre les aides disponibles. Si tu vends, l'audit peut valoriser ton bien, mais si tu achètes, il te donne une vision claire des améliorations possibles avant même d'emménager. Bon, tu le sais déjà, mais un dernier appel. Si tu as aimé cet épisode, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts et en laissant un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans nos futurs épisodes. Allez, viens, construisons au Bercail ensemble. Ta voix compte et tes idées sont hyper précieuses pour faire évoluer ce média. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout merci de contribuer à cette belle communauté. Prends soin de toi et à bientôt dans ton Bercail.